Un système monétaire et financier international est constitué d'un certain nombre de règles qui organisent la circulation des titres et des monnaies à travers les frontières. Rappelons qu'il n'existe aucune autorité supranationale et par conséquent aucune autorité monétaire ou financière supranationale. Contrairement à une idée reçue, le FMI n'en est pas une. Nous verrons par la suite quel est son rôle. Les règles concernant le système monétaire et financier international sont donc librement acceptées par des États souverains. Un système monétaire et financier international, un tel système peut être empiriquement décrit par quatre caractéristiques principales. La nature des liquidités internationales, c'est-à-dire des monnaies utilisées dans les transactions internationales sur biens, services et titres. 2. Les règles concernant la circulation des capitaux, c'est-à-dire la possibilité pour le résident d'un territoire d'acheter des titres émis par les résidents d'un autre territoire. Troisièmement, troisième caractéristique empirique, l'organisation des marchés d'échange et la nature des interventions des banques centrales et des gouvernements sur ces marchés. Et enfin, dernier trait, comment fait-on pour traiter les cas de faillite d'un État qui s'est surendetté à l'étranger? Voyons ces quatre points plus en détail. Les liquidités internationales d'abord. Dans des temps très anciens, ceux de Zakaria, et encore, à l'époque de Zakaria, les chèques circulaient déjà. On appelait cela des lettres de change, échange de l'or en papier et réciproquement. Donc bien avant Zakaria, les métaux précieux, l'or et l'argent, ont bien servi de monnaie internationale. Il y a cependant fort longtemps que les liquidités internationales sont des monnaies nationales. Pas toutes, mais certaines d'entre elles. En pratique, les monnaies des États les plus puissants de la planète. Aujourd'hui, le dollar américain, l'euro, le yen, la livre, et même le franc suisse, et demain, très certainement, le yuan. On les appelle des devises. Ces monnaies sont des monnaies nationales, mais les non-résidents sont autorisés à détenir des comptes courants dans ces monnaies et à les utiliser pour des opérations dans le territoire de la monnaie, mais aussi avec des acteurs d'autres territoires qui l'acceptent. C'est ainsi qu'un sidérurgiste chinois achètera à une entreprise australienne du minerai de fer qu'il paiera en dollars américains par virement sur des comptes en dollars dans des banques internationales. Pour fonctionner comme une liquidité internationale, une monnaie nationale doit être évidemment librement convertible par quiconque sur le marché d'échange dans toutes les autres monnaies internationales. S'agissant maintenant des mouvements de capitaux, ils peuvent être soit totalement libres, tout résident a le droit d'acheter n'importe quel type de titre étranger, et réciproquement, ou ils peuvent être limités à certaines catégories de titres. La limitation du droit pour un résident à la circulation complètement libre des capitaux s'appelle un contrôle d'échange, puisqu'il faut pour exporter ou importer des capitaux généralement se livrer à une opération de change. Troisièmement, le fonctionnement des marchés d'échange. On peut distinguer deux cas polaires, deux extrêmes. L'échange totalement flottant. Dans ce cas, les gouvernements des pays dont la monnaie est flottante ne se sont pas engagés à défendre un certain objectif de change sur les marchés. Ils laissent donc l'échange fluctuer librement. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'interviennent jamais, mais quand ils le font de façon discrétionnaire. Et ils ne se sont engagés à rien. À l'extrême opposé, Le régime d'échange fixe est un régime où les gouvernements concernés s'engagent à intervenir via leur banque centrale et sa politique sur le marché d'échange, et donc à mener les politiques monétaires nécessaires pour que le taux de change sur le marché oscille à l'intérieur d'une fourchette étroite, en général plus ou moins 1 jusqu'à 5%, autour de ce taux de change objectif. Mais naturellement, comme on l'a dit, un objectif de change peut être tenu par un gouvernement que s'il n'est pas contradictoire avec les anticipations et les comportements de millions d'acteurs sur le marché d'échange. Sinon, il faut, pour pouvoir tenir un tel taux de change, instituer un contrôle d'échange. Les gouvernements qui s'engagent dans un système de change fixe définissent généralement leurs objectifs de change par rapport à l'une des monnaies internationales, le dollar ou l'euro, ou par rapport à un panier de ces monnaies internationales, panier calculé avec les pondérations qui sont celles de l'importance de chacune de ces monnaies dans leurs échanges extérieurs. Et naturellement, en cas de déséquilibre persistant de la balance des paiements, soit des transactions courantes, soit des capitaux, qui provoquent une pression à la hausse ou à la baisse de sa monnaie, le gouvernement peut réviser son objectif. C'est donc un régime de taux de change fixe mais ajustable. Et c'est uniquement dans ce cas que l'on veut parler de dévaluation ou de réévaluation. Il s'agit de changer l'objectif. Dans les autres cas, on ne peut parler que d'appréciation ou de dépréciation des taux de change de marché sur les marchés d'échange. Entre l'échange flottant sans aucune intervention et l'échange fixe avec un strict contrôle d'échange permettant au gouvernement de tenir longtemps le taux choisi, comme le fait le gouvernement chinois, il y a naturellement entre ces deux extrêmes toute une gamme de situations intermédiaires et changeantes. Venons-en au triangle d'incompatibilité de Mundell que j'ai déjà évoqué deux fois. Les règles concernant la circulation des capitaux et le régime de change ne peuvent être quelconques. Elles sont soumises à une contrainte que décrit le triangle d'incompatibilité de Mundell. Celui-ci dit que l'on ne peut pas avoir simultanément trois choses. 1. La liberté de circulation des capitaux, 2. La stabilité des changes et 3. L'indépendance des politiques monétaires nationales. Soit les capitaux circulent librement et les politiques monétaires sont indépendantes et orientées uniquement par des objectifs internes de lutte contre l'inflation et de régulation conjoncturelle, alors dans ce cas, les changes ne peuvent pas rester fixes. En effet, toute décision de politique économique dans l'un des territoires concernés, en modifiant la rentabilité des titres dans ce territoire, provoque des mouvements de capitaux qui font fluctuer le taux de change, ce qui, à son tour, affecte les échanges commerciaux. Deuxième cas, dans un système de libre circulation des capitaux, et si l'on veut que les taux de change restent fixes, on l'a dit, il faut que la Banque centrale intervienne en permanence pour les stabiliser. Ce qui suppose non seulement qu'elle vende et achète sa monnaie sur les marchés d'échange, mais qu'elle manie la politique monétaire uniquement dans un objectif de stabilisation d'échange. Il n'y a donc pas d'autonomie des politiques monétaires. Ce fut le cas au plan mondial avant la Première Guerre mondiale. La livre sterling était la principale monnaie internationale. Livres, francs, marques et dollars étaient convertibles en or. Donc, le taux de change était fixe entre ces monnaies. Ce fut aussi une période de grande mobilité internationale des capitaux. On a parlé de première globalisation. En conséquence, les autorités monétaires françaises, allemandes et américaines devaient s'aligner sur la politique monétaire de la Banque d'Angleterre afin de maintenir le change de leur monnaie avec la livre et donc avec l'or fixe. Ce fut le cas également entre pays européens dans la phase de change fixe qui a précédé le passage à l'euro, c'est-à-dire la phase du SME, système monétaire européen. Pour maintenir la parité franc-marque en situation de complète liberté de circulation des capitaux, évidemment entre la France et l'Allemagne, la politique monétaire de la France devait s'aligner sur celle de l'Allemagne, ce que, à l'époque, certains économistes ont sévèrement critiqué. Enfin, si l'on veut avoir à la fois autonomie des politiques monétaires et stabilité des changes, il faut réduire par un contrôle des changes la libre circulation des capitaux. Ce fut le cas avec le système issu des accords de Bretton Woods, en vigueur entre 1946 et 1972. La raison fondamentale, répétons-le, est que si la circulation des capitaux est libre, alors les forces que peuvent mettre en œuvre les mouvements de capitaux privés sont telles qu'il est impossible pour la Banque centrale de stabiliser les changes tout en conservant une complète autonomie de politique monétaire. Quant au système monétaire et financier international actuel, il se caractérise par, premièrement, entre les grands pays riches de l'OCDE, pour l'essentiel, il y a une liberté complète de circulation des capitaux et autonomie des politiques économiques. Les objectifs des banques centrales, la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, qui sont, rappelons-le, de maintenir l'inflation en dessous de 2% et sous cette condition de maximiser la croissance, d'où la célèbre formule de Taylor, qui était l'ultima ratio de la politique monétaire des grands pays à monnaie convertible et qui calcule le taux que doit viser la Banque centrale sur le marché monétaire en fonction de l'inflation et de l'écart entre la croissance réelle et la croissance potentielle. Donc, ces politiques ne concernent pas le taux de change. Par conséquent, la liberté de circulation de capitaux et l'autonomie des politiques engendrent une fluctuation d'échange entre les monnaies de ces grands pays et par conséquent entre toutes les grandes devises. En revanche, la plupart des autres pays affichent des politiques de change fixes mais ajustables avec ces grandes monnaies internationales. Ce qui, dans la plupart des cas, exige soit un contrôle de mouvement des capitaux, soit une restriction drastique de la liberté de politique monétaire, soit plus généralement, en cas de crise en particulier, les deux. Reste le dernier trait de l'organisation d'un système monétaire et financier international. Qu'est-il prévu en cas d'impossibilité pour un gouvernement d'assurer le service de la dette publique en devise? Ce dont nous avons eu un exemple en Europe avec la Grèce. Eh bien, rien n'est prévu. Il n'existe pas, en particulier, malgré quelques tentatives, de code de faillite des États. En effet, un tel code ne pourrait qu'être appliqué par une autorité, à la fois justice et police, supranationale, contraignant certes les États en faillite, mais contraignant au moins certains financiers qui ont financé ces États en faillite, puisqu'il y a des pertes, par définition, à se partager. Or, les États les plus puissants, répétons-le, ne veulent en aucun cas d'une telle autorité supranationale. L'État en cessation de paiement a donc le choix. Soit il dénonce sa dette, comme l'URSS l'a fait en 1918, les bolcheviks ayant dénoncé les dettes du tsar, les fameux emprunts russes. Cette décision conduit à se couper du monde et à entrer dans une tourmente en comptant sur ses propres forces. Soit passer par les fourches caudines du club de ses créanciers. Ce club est généralement emmené, organisé par le FMI, sous le regard attentif ou la participation directe des trésors et des banques centrales des États dont les résidents détiennent une bonne part de la dette de l'État failli. Nous avons décrit à la fin du tome précédent les politiques demandées par les créanciers en échange de la restructuration de la dette. Ces politiques visent à ce que le pays passe en excédent de balance des transactions courantes pour pouvoir non pas apporter mais exporter des capitaux, et à ce que l'État passe, quant à lui, en excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire avant service de la dette, pour que cet excédent primaire lui permette de rembourser en partie la dette publique. Même si ces deux objectifs sont à terme incontournables, les moyens de les atteindre et le tempo des réformes font l'objet de très vives controverses. Tant parfois la volonté politique des créanciers de punir la cigale peut l'emporter sur ce que serait une logique purement économique de minimisation des coûts de la transition vers des équilibres extérieurs et budgétaires retrouvés. Cependant, choisir soit de sortir du jeu, soit de tenter de négocier le meilleur accord possible avec ses créanciers sous menace crédible d'une alternative, c'est-à-dire d'une sortie du jeu, cela ne relève en fin de compte que d'un gouvernement et de son peuple. Telles sont donc les grandes caractéristiques du système monétaire et financier international en vigueur depuis les années 70. Ce système a grandement facilité l'accumulation de grands déséquilibres de balance de transactions courantes, compensés par d'importants mouvements de capitaux. C'est en particulier le cas entre la Chine et les États-Unis, au point qu'on a pu parler de Chine-Amérique. Depuis les réformes initiées par Deng Xiaoping en Chine, l'objectif du Parti communiste chinois est de maximiser la vitesse de rattrapage économique, donc technologique, de l'Occident. Le moyen, c'est d'attirer des investissements directs étrangers en les contrôlant et en les orientant. Obligation de créer des joint ventures, des entreprises conjointes avec des firmes chinoises pour accélérer les transferts de technologies, et obligation d'aller s'installer dans des villes ou des zones spécifiées de manière à créer des pôles industriels, dont le plus fameux, évidemment, est Shenzhen. Pour apprendre, les Chinois devaient produire le plus possible, car il s'agit avant tout d'apprentissage par la pratique de technologies qui sont aujourd'hui librement disponibles grâce aux firmes globales. Le marché intérieur chinois étant encore incapable d'absorber toute cette production, et les entreprises globales voulant se payer en dollars, il fallait qu'elles puissent exporter massivement les biens produits avec les joint ventures chinoises. La Chine a donc organisé une croissance maximum, au départ fortement tirée par les exportations des joint ventures avec les firmes globales, et d'abord dans des segments de valeur bas de gamme. Mais les entreprises chinoises, grâce au JV, sont rapidement montées en gamme. L'objectif final du Parti communiste chinois étant de construire, pour un marché sous contrôle étatique étroit de 1,4 milliard d'individus, un système industriel complet et à la pointe de la technologie. Un objectif en pratique atteint aujourd'hui. Pour croître et apprendre le plus vite possible, le gouvernement chinois aurait été prêt à donner les excédents commerciaux du pays aux Américains. Et de fait, les États-Unis ont financé leur déficit commercial croissant avec la Chine en vendant au gouvernement chinois de la dette publique américaine. Donc, on peut dire que pour l'instant, c'est donné, car cette dette n'est qu'une promesse de revenus futurs, et qui sait si elle sera un jour honorée. Voyons maintenant les choses du côté du gouvernement américain. Le gouvernement américain, quant à lui, a, comme celui de toutes les puissances dominantes depuis l'Angleterre au XIXe siècle, soutenu une attitude extrêmement favorable au libre-échange et aux investissements directs à l'étranger des firmes globales d'origine américaine. Cette politique étant conçue comme le moyen de conserver l'hégémonie technologique grâce à l'expansion mondiale de ces firmes et aux grandes universités mondiales qui sont situées sur le territoire américain. Quant à la grande majorité des ménages américains, leurs revenus ont pratiquement stagné depuis les années 80, à l'exception des revenus du décile et même du 1% supérieur. Et ceci en grande partie à cause des délocalisations en Chine ou ailleurs. Ils ont par ailleurs, ces ménages américains à revenus stagnants, été poussés par des taux d'intérêt bas et les produits alléchants concoctés par les banques pour s'endetter le plus possible, ils ont été poussés à s'endetter pour pouvoir consommer de plus en plus de ces produits chinois importés massivement par Walmart. L'offre de centaines de milliards annuels d'épargne chinoise sur le marché mondial des capitaux a fortement contribué à maintenir des taux d'intérêt bas depuis les années 80, ce qui a facilité l'endettement des ménages américains et des États, mais aussi ce qui a contribué, on l'a vu, à alimenter le gonflement d'un mistigris qui a éclaté lors des crises financières de 2001 et de 2008. Nous l'avons vu au chapitre 8. Mais les choses changent, car désormais le gouvernement chinois désire transformer ses avoirs en titres plus rentables et met ses immenses réserves, accumulées en 30 ans d'excédents commerciaux, au service d'une stratégie de globalisation des champions chinois, qui sont tous des entreprises publiques ou étroitement contrôlées par le parti, comme Alibaba. Or, ceci ne peut que poser des problèmes de souveraineté avec les États-Unis, tant les firmes et les fonds souverains chinois sont boulimiques et tentent d'acquérir des actifs jugés stratégiques par le gouvernement américain.